Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, le secrétaire général nous a fait part des priorités qu'il entend mettre en œuvre au cours de cette nouvelle session de notre Assemblée. Sa mise en garde contre la multiplicité des menaces nouvelles et sa clairvoyance quant à l'interaction entre ces écueils devront inspirer et guider nos travaux. Maintenir la paix et la sécurité internationale est, faut-il le rappeler, l'essence même de la mission de notre organisation. Qu'observons-nous ? Les crises, les menaces contre la paix et la sécurité se multiplient, et souvent même se renforcent, avec leur corollaire de mise en péril des droits de l'homme. Quelle vision globale avons-nous des défis qui se posent à la planète, ses États et ses populations ? C'est en gardant à l'esprit notre mission et l'impérieuse nécessité d'accéder à cette vision que nous devons soutenir les 5 priorités du programme d'action pour les 5 prochaines années que le secrétaire général nous soumet. Nous voulons ainsi privilégier, comme il nous y invite, le renforcement du système des Nations Unies et le développement des partenariats dans tous les secteurs d'activité de l'ONU. Monsieur le Président, à raison, vous avez souhaité placer ce débat général sous le thème du règlement pacifique des situations et différends internationaux. Le débat historique tenu en début de semaine par l'Assemblée générale a mis en évidence que le respect de l'état de droit, tant au niveau national qu'international, est indispensable à l'établissement de sociétés responsables et capables de coopérer entre elles, mais aussi d'assurer le bien-être de leurs citoyens. L'histoire récente nous conduit à aborder avec gravité l'ensemble du monde actuel. Alors que nous saluions l'an dernier le formidable élan de démocratie qui prenait essor dans le monde arabe, nous ne pouvons tolérer aujourd'hui que des fractions minoritaires, extrémistes, menacent les espoirs et ternissent les attentes des peuples qui aspirent à vivre en liberté. Le gouvernement princier a joint sa voix à celle de ceux qui ont condamné les violences perpétrées tant par les autorités que par d'autres protagonistes en République arabe syrienne, où la situation ne cesse de se détériorer. Aussi, je tiens à exprimer tout mon soutien à l'effort et à la détermination du Comité international de la Croix-Rouge de vouloir assurer le déploiement des besoins humanitaires croissants. Il s'agit, sans aucune ambiguïté, de faire respecter par chacun les règles du droit humanitaire international, puisque la simple évidence de l'exigence morale la plus élémentaire envers les populations ne semble malheureusement pas partagée par tous. Nous sommes également très préoccupés par l'aggravation des derniers développements dans la région du Sahel, y compris au Mali. La principauté de Monaco, engagée dans diverses actions humanitaires dans la région, ne pourra que soutenir toute action de la communauté internationale face à l'urgence et la gravité d'une telle situation. Elle appuiera la stratégie que les Nations Unies devront établir et qui devra intégrer les questions de sécurité, de gouvernance, de développement des droits de l'homme et des aspects humanitaires. Les valeurs que nous nous sommes engagés à respecter ensemble en adoptant la Charte des Nations Unies, sont fondées sur l'humanité que nous avons en partage et sur la reconnaissance de nos différences qui sont l'essence même de notre humanité. Qu'il me soit permis à cet égard de rendre hommage à tous ceux qui s'engagent à servir ces valeurs sur le terrain au prix parfois de leur vie. Ils s'emploient à défendre les buts et principes qui nous unissent dans cette enceinte. Les autorités monégasques condamnent fermement toute attaque menée contre les missions et les personnels diplomatiques et consulaires. Il nous incombe à tous de veiller à ce que l'obligation d'assurer leur protection soit respectée en toutes circonstances. Monsieur le Président, à l'heure où le monde est confronté à une préoccupante évolution, le thème que vous avez retenu pour cette session de l'Assemblée générale ne peut que forcer l'unanimité de notre communauté. Conscient de ces défis, je tiens à cette occasion à vous assurer du plein soutien de ma délégation et à vous féliciter de votre élection. Plus que jamais, nous avons besoin de recourir au règlement pacifique de nos différends, prévenir plutôt que réagir aux événements. Déjà dans les années 1950, le secrétaire général Dag Hammarskjöld nous faisait, je cite, « prendre conscience de la nécessité d'agir à un stade précoce en cas de crise pour éviter l'éruption des différends entre les parties ou la transformation d'un différend en un conflit ouvert ou encore, si un conflit éclate, de faire en sorte qu'il s'étende le moins possible. » Faute d'anticipation, tant de drames quotidiens au fil de cette année 2012 n'ont pu être dénoués. Certes, nous sommes parvenus à faire primer le droit international sur le droit de faire la guerre. Mais pour autant, l'implication de notre organisation dans la prévention des conflits demeure encore largement insuffisante, car l'imprécation et les déclarations d'intention seules ne suffisent pas. Il est par conséquent de notre devoir d'œuvrer ensemble à approfondir toujours la compréhension, la tolérance et le respect mutuel. Comme le soulignait Monsieur le Secrétaire général, ainsi que votre prédécesseur, ici même le 13 septembre dernier, l'un des meilleurs vecteurs de prévention des conflits et donc d'inscription d'une véritable culture de la paix a un nom, c'est l'éducation. Alors, cette prévention s'inscrira à l'échelle des jeunes générations dont nous sommes comptables de l'avenir. Ces défis sont multiples. Parmi eux, je veux citer la crise économique et financière qui touche depuis 2008 le plus grand nombre de nos États. Nous pouvons surmonter cette crise, créer des emplois tout en protégeant notre patrimoine environnemental. Mais pour cela, nous devons avoir une vision ambitieuse de long terme. C'est pourquoi, en dépit des efforts budgétaires que nous impose la crise, nous ne pouvons perdre de vue la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. L'élimination de la pauvreté et de la faim, l'éducation, la santé maternelle et infantile, la lutte contre les pandémies, dont le VIH-Sida et le paludisme qui privent l'humanité de ses forces vives, toutes deux restent prioritaires dans notre agenda. L'échéance prochaine doit nous inciter à intensifier encore davantage nos efforts en vue de leur réalisation. En 2015, il nous appartiendra d'adopter un nouveau programme de travail sur la base des résultats réalisés et des nouveaux défis à soulever. Dans son allocution à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II se félicitait de voir que nous progressons vers la décision de définir ensemble des objectifs de développement durable. Ils encadreront nos actions sur les plans international, national et local. Ainsi, la mise en œuvre de nos engagements sera-t-elle plus efficace et plus transparente? L'un de ces objectifs devra mettre l'accent sur le développement durable des océans et sur l'importance de l'économie bleue. Cet objectif devra concerner tous les secteurs dépendant des ressources des océans et de l'espace maritime. Il est urgent qu'ils soient intégrés et deviennent durables pour permettre à ces mêmes secteurs de continuer de bénéficier de services économiques, sociaux et environnementaux. Notre délégation appuiera par conséquent toute initiative visant à améliorer la coordination et l'efficacité du travail de l'ONU sur les océans. Cela nous semble en effet être la voie appropriée pour assurer à leur terme leur utilisation et leur gestion durable, et ainsi leur conservation. Le sort des générations futures est entre nos mains. Pour elles, nous avons l'impérieuse nécessité de faire de la conférence de Doha sur les changements climatiques un succès. C'est en pensant à elles que nous devrons entériner l'accord sur la création d'une seconde période d'engagement au protocole de Kyoto. Nous nous engagerons donc de façon positive et efficace dans la négociation portant sur le nouvel accord global sur le climat post-2020, tout en tenant compte des besoins des plus vulnérables. Monsieur le Président, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, se félicite de célébrer l'an prochain le 20e anniversaire de l'adhésion de Monaco en qualité d'État membre de l'organisation. Mais dès aujourd'hui déjà, Monaco tient à exprimer ici sa volonté à contribuer au renforcement de notre organisation autant que sa qualité de petit État le lui permet. Soyez certain que la Principauté salue votre double intention d'engager davantage l'Assemblée générale sur la question du développement et d'établir un cadre consultatif qui viserait à améliorer la collaboration de l'Assemblée générale avec les institutions financières internationales. En l'année du 20e anniversaire du Forum of Small States, dont Monaco est partie, mais aussi en qualité de membre du groupe sur la gouvernance mondiale, 3G, le gouvernement princier entend prendre toute sa part dans nos travaux. L'amplitude des défis et des crises auxquelles nous sommes tous confrontés a en effet démontré que la taille d'un État n'est pas l'élément déterminant dans la résolution des problèmes. C'est notre capacité à travailler ensemble et à coopérer qui seule peut répondre aux exigences de la réalité et nous conduire sur la voie de la paix et de la sécurité internationale. Je vous remercie de votre attention.